Alors, je vais essayer d'être relativement concise pour laisser à Jackie le temps de développer l'intervention qu'il a prévue et qui porte sur un objet relativement riche et complexe. Et donc, je vais faire un propos introductif pour présenter la recherche qui est en cours, donc depuis 2007, à l'INRP. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je crois utile de préciser vraiment le point de vue d'où nous parlons, c'est-à-dire que nous nous situons vraiment dans l'équipe INRP, dans un champ, celui de la didactique, qui est pris vraiment au sens de champ scientifique, qui étudie les procédures d'enseignement et les processus d'apprentissage sur des objets disciplinaires scolaires donnés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une acception qui serait proche du synonyme de pédagogique. Pour nous, la didactique, c'est un champ scientifique. Donc la recherche que nous avons lancée porte... Ah oui, j'ai oublié, attendez, excusez-moi... Voilà, visionner, hop. Voilà, donc la recherche que nous avons engagée en partenariat, comme je l'ai dit, avec le réseau des enseignants qui sont ici présents dans la salle, porte donc sur l'enseignement de l'Europe, avec volontairement des guillemets, puisque derrière ce terme générique, finalement, parfois on rencontre l'Union européenne, parfois c'est l'Europe en tant que continent, parfois c'est la dimension européenne 2, ou c'est le fait européen. Donc c'est là, volontairement, que j'ai mis des guillemets. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir ce couplage entre cet enseignement européen et puis la dimension citoyenne qui lui est associée dans les instructions officielles, dans les textes d'accompagnement et dans l'esprit surtout du législateur. D'emblée, je dois dire que, et François l'a signalé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a dans la communauté enseignante une représentation très très largement partagée qui voudrait que, au fond, faire de l'histoire et de la géographie produirait automatiquement, en quelque sorte, du lien social, bien sûr, du sentiment d'appartenance par des connaissances et un héritage et des valeurs partagées, et que cette appartenance serait en quelque sorte le substrat, l'espèce de socle sur lequel pourrait se construire la citoyenneté. Ce sont des positions qui me gênent de plus en plus, dans la mesure où elles me paraissent présenter deux dérives, une dérive que je qualifierais de continuiste, et une dérive projective. J'en dis juste deux mots, dérive continuiste, parce que on fait comme si enseigner des connaissances, ça construit un sentiment commun d'appartenance, et que ce sentiment d'appartenance crée de l'identité et crée de la citoyenneté. Il y a là une espèce de vision qui est totalement... à mon avis erroné, comme l'ont montré par exemple les travaux menés par une de nos équipes sur l'enseignement de l'objet patrimonial, où on voit bien au contraire qu'on est toujours dans des sortes de micro-ruptures. Et la deuxième dérive sur laquelle je passe très rapidement, c'est ce que j'ai appelé une espèce de dérive projective, c'est-à-dire que finalement les disciplines scolaires, en particulier l'histoire et la géographie, sont caractérisées par une double finalité, une finalité culturelle, certes, intellectuelle, mais une finalité civique. Et là aussi, on fait comme si la dimension culturelle de l'histoire enseignée, par exemple, créerait de l'appartenance, et la dimension civique de l'histoire enseignée, je reprends le même exemple, créerait du civisme à cause de l'esprit critique qui caractérise notre discipline. Donc il est clair que je ne suis absolument pas convaincue de ce type de position, et qu'une des questions que nous devons nous poser, me semble-t-il, en tant que didacticien, c'est de nous interroger vraiment sur ce que nos disciplines scolaires sont susceptibles de construire vraiment en termes, effectivement, de construction identitaire et de construction civique. Et de ce point de vue, je me reconnais tout à fait dans les propos de Robert Franck, hein, qui marque bien la différence qu'il y a entre ce qui serait de l'ordre de l'appartenance, de l'ordre de la conscience, de l'ordre du sentiment européen et qui n'affecte en réalité qu'une minorité de personnes. Et il dit bien dans ses propos, même sans se placer forcément d'un point de vue de l'enseignement, qu'il n'y a absolument aucune déductibilité d'un niveau à un autre. Donc ce préalable étant fait, je passe sur la citation, ça gagnera une minute pour Jackie. Alors, mon propos va être, si vous voulez, de vraiment essayer de vous expliquer ce que nous faisons donc avec Angelina, Catherine et puis Jacques, et puis Pascal, c'est-à-dire quelle est la posture de recherche que nous avons adoptée. Et vous le verrez, il y a un certain nombre de points sur lesquels des fils peuvent être tissés entre ce qu'a dit François tout à l'heure dans sa première intervention et la position qui est la nôtre. C'est bien le... Attendez, j'ai un doute, là. Voilà. Mais non, c'est bon. Voilà. C'est mon premier PowerPoint, alors vous excuserez les coquilles, l'absence de qualité de certaines diapos et sans doute mes maladresses permanentes. Alors, je rappelle à cet égard qu'en 2000, a été publiée une recherche INRP dirigée par Nicole Tutu-Guyon. Initialement, d'ailleurs, je crois que c'était toi qui l'avais initiée, que tu en as fait une postface complémentaire, donc qui portait sur l'Europe entre projets politiques et objets scolaires au collège et au lycée. Et je me suis intéressée, j'ai revisité ce rapport de recherche, parce qu'il y a un passage, un moment qui m'a paru très intéressant du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de regarder la manière dont a été organisée la partie numéro 2, où effectivement il y a un texte très dense qui balaye, je vous ai juste mis la table des matières, l'Europe, avenir à construire, des valeurs partagées, le rapport à l'autre, et puis la question des rapports espace, territoire, identification. Or, les personnes qui dirigeaient cette recherche ont eu l'idée, que j'ai trouvée tout à fait intéressante, donc en 99, puisque la publication évidemment est postérieure, c'est de faire lire à un panel d'enseignants, collèges, toutes sortes d'établissements, formateurs, non formateurs, lycées, etc., de leur faire lire cette partie du rapport et de leur demander de discuter en tant que professionnels sur la présentation qui leur était faite de cet objet à enseigner, objet certes scolaire, mais objet fortement charpenté par un projet politique. Et il y a là un petit chapitre qui est vraiment extrêmement passionnant. Ce qui est dommage, c'est que j'ai interrogé Nicole Tutu, elle n'a plus la trace de l'entretien tel qu'il s'était produit effectivement, c'est-à-dire on n'a plus la trace du processus, on a simplement la reconstruction qui en a été faite pour à des fins de publication. Mais voilà ce que disaient déjà en 99 les enseignants, avec une pointe vraiment de, je ne dirais pas de déprime, mais la sensation que là, l'institution leur demande vraiment quelque chose de très difficile. Et quatre choses avaient été pointées. Quelle est la place des valeurs dans l'enseignement ? Et visiblement, les interventions montraient une sorte de malaise face à cette dimension à enseigner. La difficulté aussi à prendre en compte l'avenir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'objets d'enseignement. Lien avec ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de distorsion entre les contraintes des pratiques dominantes et puis ce que supposerait finalement cet objet en tant que brèche dans la forme scolaire, voire même dans le paradigme dominant, et donc pour certains, l'idée que une telle posture, tout à fait intéressante, finalement supposerait de vraiment enseigner autrement. Et je prends juste une citation d'un enseignant qui, à mon avis, résume assez bien la tonalité de ce débat. « Enseigner l'Europe, c'est montrer qu'il y a quelque chose de complexe dans le temps, dans le territoire, dans les valeurs, et qu'il faut prendre en compte quelques repères, poser quelques questions en débat, et ne pas s'attendre à ce que cet enseignement inclue une vérité toute faite. » Il concluait même en disant « Il y a une part de liberté du professeur qui est essentielle et c'est cette part de liberté qui semblait être l'objet justement de cette espèce de conflit cognitif chez les enseignants qui discutaient. » Si j'ajoute à cela 99, il y a eu 2005, il faut voir que non seulement cette perception déjà palpable, quasiment en 2000, de ces enseignants face à cet objet complexe, a été renforcée par le fait que, à partir des débats qui ont eu lieu sur le traité constitutionnel, on peut considérer que l'Europe est devenue une question scolairement vive. C'est-à-dire que moi qui ai enseigné jusqu'en 2000, je ne vous cache pas que j'ai l'impression que je déroulais quelque chose d'extrêmement froid, téléologique, lorsque je traitais des questions européennes avec mes élèves. C'est-à-dire que je n'avais pas l'impression de devoir m'emparer de quelque chose de complexe, de problématique, de discutable, en débat. Et là, donc, je vous ai indiqué la, comment dire, la définition que fait Le Gardez et Simoneau de cette question de sujet scolairement vif, hein, c'est-à-dire que ce sont des sujets où, je dirais des objets, les élèves y sont directement confrontés, ainsi que les enseignants qui se sentent souvent démunis pour aborder un type de questionnement étranger à leur modèle pédagogique de référence. C'est-à-dire que j'ajouterais que, au-delà de la forme scolaire dont a parlé François tout à l'heure et qui constitue une sorte de cadre pluriséculaire dans lequel s'inscrit l'enseignement en France, il y a aussi le fait que nous avons des modèles. La discipline scolaire fonctionne selon un modèle qui est vivement remis en cause dès lors que l'on aborde des sujets sensibles, des sujets vifs ou des sujets controversés. J'ajouterai, j'ai puisé quelques citations dans l'annexe du décret sur le socle commun de connaissances et de compétences, que ceci est encore renforcé par le fait que cette fois-ci l'institution fait une demande totalement explicite de développer ce que j'ai mis en rouge, le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect évidemment du des différences, c'est dans le pilier 6, qu'il s'agit pour cela, c'est toujours, je crois, dans le pilier 6, de connaître les finalités du projet européen. Et puis, je n'ai retrouvé cette référence que dans le pilier 5, c'est-à-dire que cette idée de continuum, on la voit en clair dans les textes, la culture humaniste, eh ben finalement, elle participe de facto de la construction d'un sentiment d'appartenance, forcément, disent les textes, et du coup d'une appartenance à une communauté de citoyens. Donc vous voyez tous les sauts que nous avons dans la demande institutionnelle. Alors j'étais tout à fait d'accord avec ce que François développait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que si on essaye de brosser ce cadre assez général que je balaye évidemment à toute allure, on s'aperçoit que la question des acteurs devient totalement centrale dans ce genre de réflexion. Donc voici résumé la dernière mouture des questions de recherche que notre équipe se pose, c'est-à-dire que dans la perspective de mise en place du socle commun en histoire-géographie, j'ai rappelé à double visée culturelle et citoyenne, et bien finalement nous nous posons les questions suivantes. Concrètement, comment les enseignants d'histoire et de géographie s'emparent-ils de ces finalités? Comment ils s'en emparent? Comment ils se les approprient pour construire finalement leur discours ou le texte de l'histoire-géographie enseignée dans le quotidien de la classe. C'est-à-dire non pas seulement au niveau du discours, mais également, on le voit, au niveau de la pratique. Donc, vous voyez de manière sous-jacente, je glisse tout de suite cette notion, que nous nous intéressons certes aux discours produits par les enseignants lorsque nous les interviewons, par exemple dans des entretiens, mais nous nous intéressons aussi à toutes les consonances, dissonances qui peuvent exister entre le discours qu'ils tiennent sur l'objet scolaire et puis les pratiques réellement mises en œuvre dans la classe. Deuxième question bien interpellante, c'est que face à ces discours produits par les enseignants, finalement, quelles sont les réceptions des élèves? Qu'est-ce que les élèves construisent? Construisent-ils, par exemple, comme Jean-François Thémine aura l'occasion de le dire demain dans son exposé, dans sa communication, construisent-ils quelque chose qui est de l'ordre de l'identité européenne? Si oui, est-ce lié à l'école, partiellement, comment, etc. Donc, quels sont ces processus? Et du coup, question plus générale, en quoi ces disciplines scolaires concourent-elles finalement, ou pas, à une forme d'éducation à la citoyenneté? Alors, comme je voulais être bref, j'ai décidé de... Oh, tu as un paquet de documents qui est juste le... Voilà. Voulant être brève, je ne vais prendre en fait qu'un exemple, mais je vais vous expliquer un petit peu dans quelle perspective nous nous situons pour vous montrer la complexité qu'il y a en didactique à s'emparer d'une telle question. Je ne veux pas dire que travailler sur les instructions officielles ce soit simple, je ne veux pas dire que travailler sur les manuels ce soit simple, loin de moi une telle vision réductrice, mais travailler sur les acteurs, quand on les place au centre de la réflexion, suppose toute une approche méthodologique extrêmement complexe, dans laquelle, comme d'ailleurs dans le cas des sciences sociales d'une manière générale, nous sommes la plupart du temps contraints à la fois de rassembler des matériaux empiriques, tout en construisant en même temps les cadres théoriques et les cadres méthodologiques qui vont nous servir à les analyser. Ainsi donc, je vous donne quelques indications et je ne prendrai qu'un exemple. Nous... Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez ou est-ce que... Moi, ça ne me gêne pas du tout, tu peux éteindre. Voilà. C'est-à-dire que nous intéressons aux acteurs dans une perspective compréhensive qui est la nôtre. Donc, le dispositif de recherche comprend plusieurs étapes. La première étape est effectivement d'interroger les acteurs, c'est-à-dire nous appliquons là les méthodes de Kaufmann citées tout à l'heure, d'entretien compréhensif pour essayer de comprendre quels sont véritablement les ressorts en fait de leur action et pas seulement observer l'action. Donc dans cette approche compréhensive, à partir d'un nombre évidemment limité d'entretiens, puisque nous considérons que nous sommes plutôt dans une approche qualitative et qu'il nous sera difficile d'aller dans le menu au-delà d'une vingtaine d'entretiens et d'une vingtaine donc de terrains d'observation, nous essayons de comprendre la logique interne qui donne sens à l'action des acteurs. Alors, je vais vous demander de visualiser... À cette heure-ci, c'est peut-être difficile de visualiser le schéma de gauche, non pas en aplat, je n'ai pas été capable encore de faire ça dans l'espace, c'est-à-dire que là, il faut imaginer que c'est un peu la section d'un cône. C'est-à-dire que ce qui fonde et légitime le vivre ensemble, c'est-à-dire la conception finalement globale, politique de l'individu, elle est... si vous voulez, il faut se l'imaginer au fond comme le sommet du cône, c'est ce qui va donner sens à la posture globale de l'enseignant, qui est aussi un être humain, un citoyen, quelqu'un d'engagé dans la cité. Mais c'est vrai qu'au niveau du discours, il est très difficile de saisir, dans un premier temps, cet aspect des choses, dans la mesure où c'est souvent masqué par le discours, par l'entretien. En revanche, ce qui est très intéressant, et nous en sommes à peu près, tu me dis si je dis une erreur, à 8 entretiens, dont 6 qui sont totalement décryptés. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le prolongement des travaux qui avaient été menés par Festinger en 1957, c'est-à-dire toute la théorie de la consonance et surtout dissonance cognitive, il apparaît que, il semblerait en tous les cas que l'être humain a une espèce de propension, lorsqu'il sent que soit deux systèmes d'idées, soit son système idéologique ou son système de référence est en dissonance avec ses actions, que sa posture naturelle est d'essayer de redonner du sens. Donc nous, ce que nous essayons de faire en décryptant donc les entretiens et surtout en les analysant très finement, donc vous comprenez la longueur parce que parfois dans certains cas, chaque mot compte et c'est le glissement d'un mot à un autre qui permet de dévoiler en quelque sorte ce qui est derrière la tête de l'enseignant. Nous sommes obligés de manipuler non pas une grille d'analyse, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans un modèle de recherche où nous aurions une espèce de théorie de référence a priori et où nous pourrions appliquer cette grille de référence à tous les entretiens au fond que nous passerions à la moulinette. Nous sommes obligés de construire nous-mêmes notre propre cadre de référence. J'en ai pour l'instant représenté 3, dont je ne prendrai qu'un exemple pour laisser à Jacques le temps de développer ce qu'il souhaite. Pôle de légitimité. C'est vrai que dans les discours que nous avons commencé à étudier, nous voyons véritablement des enseignants qui justifient en quelque sorte la position d'enseignant qui est la leur, selon des pôles qui sont très variables d'un sujet à un autre. Tantôt c'est l'utilité sociale qui est visiblement la charpente de leur action pédagogique. Dans d'autres cas, c'est au contraire le pôle et la légitimité scientifique qui leur paraît premier. C'est-à-dire que nous commençons à voir là des acteurs qui se différencient très fondamentalement dans tout simplement la mission dont ils se sentent investis en tant qu'enseignants. Un deuxième point qui nous semble très intéressant pour notre objet de recherche, et je n'en dirai rien parce que ça nous entraînerait trop loin, c'est ce que j'ai indiqué à gauche, c'est-à-dire, je pense là aux résultats des travaux menés par Nicole Lottier à partir de nombreuses enquêtes qui balayent la période 1985-1995, les dernières n'ayant pas été publiées, et où elle essaye de voir à partir d'entretiens très nombreux comment les enseignants articulent la conception qu'ils ont de l'histoire, puisque elle travaille sur la didactique de l'histoire, et les finalités qui sont porteuses, soit par cette discipline, soit par les programmes en éducation civique. Et on voit bien là également que les postures des enseignants sont très différentes des unes des autres et que des fils peuvent être tissés entre la légitimité qu'ils donnent à leur action professionnelle et quelque part la conception qu'ils ont eux-mêmes du couple en quelque sorte, histoire enseignée et puis finalités éducatives. Mais le seul exemple que je voudrais développer, c'est ce petit référentiel, et c'est le document, sauf que je ne l'ai plus sous les yeux, c'est le document que je vous ai distribué, c'est que on semble faire finalement, et depuis ce matin c'était très intéressant de voir justement les positions différentes, nous semblons faire souvent comme si même les historiens, même les institutionnels étaient dans une posture homogène par rapport au nouveau programme, par rapport au choix. Et je me suis amusée, alors c'est évidemment je fais frémir, je regarde Roselyne qui est en face de moi, je fais frémir les historiens devant l'exercice auquel je me suis livrée, c'est-à-dire que j'ai pris en particulier un corpus de textes qui m'a paru très intéressant, c'est en 93 dans la revue Le Débat, quatre historiens, un doyen de l'inspection générale, un ancien recteur, qui ont accepté de jouer le jeu, de dire au fond ce que serait ou ce que devrait être pour eux l'enseignement de l'Europe à un moment où, je vous rappelle, 1993, on était justement dans la période de gestation des programmes de 95. Alors bien sûr, ils ont joué le jeu souvent en forçant le trait et en adoptant des postures peut-être un peu extrêmes, mais ce qui est très intéressant, et je vous laisserai ensuite découvrir le document, c'est que je me suis livrée à une double lecture de ces 6-7 communication. Sur l'axe horizontal, et vous verrez tout de suite les contrepoints, j'ai essayé de prendre dans leur position d'historien celle qui me paraissait répondre à la question, mais au fond d'où je parle, à quoi je pense que l'histoire sert pour construire de l'identité ou de la conscience européenne. Et on s'aperçoit là qu'il y a des positions extrêmement opposées. Il me semble que le couple le plus flagrant, c'est la première intervention de Lebrun, que vous avez totalement située dans le carré de gauche. C'est-à-dire que pour Lebrun, il n'y a pas de problème, puisqu'on est dans une position où on part du local, on va au national, puis on est au niveau monde, l'Europe étant un niveau intermédiaire, mais qui permet à l'élève, au cours de son développement, d'être finalement dans une sorte de logique correspondant à ce qu'est bien le développement d'un individu. Il va jusqu'à dire qu'il faudrait élaguer les programmes, et le projet qu'il propose dans cet article est de dire, c'est très simple, on commence par étudier les Grecs, les Grecs, les Romains, le christianisme, et puis la Renaissance, et puis finalement, arrivé en seconde, on a toutes les fondements qui vont permettre de comprendre le patrimoine et l'héritage européen. Et puis tout ce qui est exotique, finalement, à quoi bon faire l'Égypte, à quoi bon s'occuper de ce qui se passe du côté de l'Orient. Donc voyez, vous avez parmi ces individus qui sont à l'époque totalement engagés dans les débats institutionnels sur les nouveaux programmes, vous avez des positions aussi extrême que celle de Lebrun, qui, comme je l'avais dit récemment, est quasiment un idéal type à lui tout seul, parce qu'il va jusqu'à dire, regardez la citation, « Connaître ses racines permet de se forger une conscience éclairée de citoyens européens ». C'est-à-dire, il est dans une vision extrêmement téléologique. Alors évidemment, si vous comparez avec le texte Jean-Clément Martin, vous avez à droite, sur l'autre polarité de cet axe, quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire construire une identité, c'est revisiter son passé de manière rétroactive, etc. Je ne détaille pas puisque vous avez le document. Et la deuxième lecture que j'ai faite, tout aussi intéressante, était de voir, alors j'ai repris les mêmes textes, et j'ai essayé de répondre cette fois-ci à une autre question, c'est-à-dire les tensions qui existent au sein de cet objet complexe, comment ces mêmes 6 ou 7 contributeurs les traitent-ils ? Et on s'aperçoit qu'il y a là une autre opposition tout à fait pertinente et intéressante, c'est que certains, comme ils accordent le primat à tout ce qui est racine, héritage, etc., ils ont tendance à être dans le gommage, en quelque sorte, de tout ce qui pourrait paraître une aspérité, quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire, c'est encore des citations, l'Europe est au fond présentée comme une surface vitrifiée. Tout au contraire, évidemment, ceux qui considèrent que l'Europe étant un projet, on ne peut pas la sortir de son historicité, qu'il faut l'étudier dans sa complexité, dans sa non-linéarité, et que finalement, il faut partir du complexe pour travailler un objet complexe. Alors, comme Jackie aura l'occasion d'en parler, vous voyez que notre démarche consiste à interviewer de façon extrêmement fine des enseignants. et en combinant en quelque sorte plusieurs grilles d'intelligibilité, et en essayant de coupler avec ce que Jackie vous dira, c'est-à-dire quelque part quelle conception du vivre ensemble ils ont, d'essayer d'extraire de cela eh bien des sortes de positions assez idéales typiques, c'est-à-dire d'essayer de voir s'il n'y aurait pas un certain type de posture enseignante que l'on pourrait retrouver, sachant que dans ce type d'études qualitatives, souvent ce n'est pas le nombre qui est intéressant. En général, quand à N entretient plus 1, on s'aperçoit qu'on sature le modèle, ça signifie qu'en gros, on a trouvé toutes les dimensions pertinentes pour expliquer le problème. Dernière diapositive donc. Le problème, c'est que vous voyez, et j'ai volontairement terminé par un point d'interrogation, parce que ça, ce sont les questions que je me pose actuellement, c'est que dans ce type de logique fort bien expliquée par Quin, vous voyez que là, nous sommes non plus en train d'analyser le triangle pédagogique avec l'enseignant, le savoir et l'élève, mais nous sommes bien au niveau des acteurs, nous sommes au niveau de l'analyse des ressorts de l'action qu'ils mettent en œuvre dans les classes et aussi les ressorts de l'action que les élèves, au fond, mobilisent lorsqu'ils sont dans cette construction identitaire. Et comme le dit très bien Quin, le problème de ces méthodologies individualistes, c'est-à-dire qui sortent du holisme en quelque sorte, c'est que l'analyse compréhensive des logiques des acteurs ne dit pas forcément tout sur ce que ça génère au niveau du système. Et la question que je me pose, peut-être parce que j'ai besoin d'avoir un regard réflexif sur mes propres pratiques, j'avais la sensation quand j'étais enseignante en 99-2000 que j'étais à l'époque tout à fait à propos de l'Europe dans une sorte de vulgate qui se déroulait très très bien, la construction européenne, l'élargissement, les institutions, la PAC, et tout était clair, neutre, froid. Est-ce que, c'est la question que nous pourrons nous poser, est-ce qu'il est entré en ce moment, à partir en particulier de 2005, de se reconstruire une nouvelle vulgate qui se contenterait en quelque sorte d'incorporer des éléments problématiques, mais en les refroidissant par une scolarisation de l'objet, ou bien, alors ça nous intéresserait bien plus évidemment, ou bien est-ce que nous n'allons pas nous trouver face à un modèle disciplinaire, je fais référence aux travaux de François Audigier, qui serait en fait victime d'un certain nombre de brèches, dans la mesure où les entretiens que nous avons menés pour l'instant révèlent des postures professionnelles extrêmement diverses et parfois même totalement contradictoires. Donc est-ce qu'il y aura une sorte d'aplanissement? Est-ce qu'il y aura au contraire pluralité finalement de modèles d'enseignement qui seront cette fois-ci des isolats presque géographiques, presque spatiaux? C'est une des questions qui nous interpelle compte tenu de la richesse et de la complexité de ce que vivent les enseignants au quotidien lorsqu'ils s'expriment sur cette question.
Alors, vous avez bien compris comment dire, l'architecture que nous a proposée Nicole, c'est que le problème, hein, c'est que on peut se poser la question, est-ce que cette pluralité de postures tient aux difficultés des enseignants qui ne savent pas finalement répondre à la mission qu'on leur a donnée, ou à la diversité de la société elle-même? Et l'hypothèse, mais vraiment très théorique, que je peux donner, si ça tient à la diversité de la société elle-même, où il n'y aurait pas accord sur ses référents, ses valeurs, etc., il sera vain de trouver, disons, un paradigme unificateur. Par contre, si le fait qu'on ait des enseignants qui se différencient les uns les autres, alors que la société a un projet homogène, donc là, ce sera une crise pédagogique. Voilà, hein. Sinon, c'est une crise, je dirais, tout simplement axiologique. Hein. Yeah. Alors, si vous voulez, l'idée, là, toujours sur le modèle des tableaux homogènes de pensée que vous a montré Nicole, c'est-à-dire qu'on essaie, hein, de mettre en consonance, dissonance, hein, des outils intellectuels, tout bêtement. Hein. Bien. Alors, donc l'idée, hein, c'est la question qu'on se pose, c'est que lorsque on fait des entretiens compréhensifs, bon, on peut pas se laisser constamment guider par l'intuition, l'induction, et puis au doigt mouillé, essayer de trouver des choses nouvelles. On a besoin de grilles d'intelligibilité. Et Nicole vous en a montré une. Hein, qui est remarquable au niveau de la conception que l'on se fait du rôle de l'enseignement de l'histoire pour la citoyenneté. Bien. Donc ici, c'est quelque chose peut-être de encore plus surplombant. C'est en partant de la, comment dire, de l'article de Dominique Schnapper qui se peut être téléchargé. VEI, c'est une revue du ministère et donc qui est sur Internet. Bien. Donc c'est d'essayer de déterminer hein, ce qui fonde, je dirais, le vivre ensemble légitime. Vous voyez, je fais comme François, je modifie jusqu'à la dernière minute. C'est pas de fonder le vivre ensemble, c'est de fonder un vivre ensemble légitime. Hein. Comment dire hein, alors, de la part d'individus, de groupes et de la d'une société entière. Alors, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette idée que par un miracle, on va créer, je crois, un accord unanime au sein d'une société. On verra après pourquoi. Bien. Alors, l'idée de Schnapper, c'est qu'il faut non pas partir des institutions ou partir de contrats individuels, mais partir d'un principe axiologique régulateur qui, après, permet de décliner des pratiques. Vous voyez, c'est l'inverse de la démarche dont, comment dire, François a montré les dérives. Bien, donc là, je monte. Bon. Alors, évidemment, hein, on s'aperçoit que quand c'est comme ça, un pauvre didacticien de la géographie... Pardon ? Oui ? Oui, non, mais au contraire, je suis monté. Hein, ouais. Oui, parce que, bon, comment dire... Donc, quand on est un pauvre didacticien de la géographie, c'est qu'on a, et de l'histoire, on a un cruel déficit en connaissances. On sort de ce qui, apparemment, est notre domaine de compétences. Puisque il faut travailler, donc, des ouvrages de sociologie, de sciences politiques, de philosophie, etc., etc. Et ou alors on réinvente le fil à couper le beurre, ou alors on fait d'énormes contresens. Bon. Et ensuite, un problème de méthodologie. D'où, d'ailleurs, comment dire, les deux comment dire, références que j'ai indiquées là, celle de Quin au niveau méthodologique, parce qu'on avait pas mal fait ça avec, d'ailleurs, Thémine sur ses référentiels, mais de façon assez empirique. Et Quin, à mon avis, apporte peut-être un peu de... comment dire, de mise en ordre. Bon. Et quand on déborde de son cadre de compétences, on essaie quand même de partir de son point de vue habituel de géographe. Hein. Et comme par hasard, donc, c'est Lévy et Retaillé donc, qui m'ont aidé, disons, à faire un bout de chemin sur ce fameux principe régulateur, puisque finalement, Lévy et Retaillé, dans leur ouvrage de référence, puis tout ce qui a suivi, s'intéressent sur la dimension spatiale de la substance sociale. C'est-à-dire qu'on a une substance sociale donc, qui est normalement réglée par ce fameux principe intégrateur, et eux, en décline hein, tous les avatars spatiaux, selon le type de lien. Bien, j'espère que je ne suis pas trop confus. Là. Bon, alors, ensuite, donc, l'idée, hein, c'est exactement comme pour Nicole, c'est d'établir des types idéaux qui permettent de penser après les études de cas. Bon, par exemple, les questionnaires. Bien. Alors, c'est ce que, comment dire, Weber appelle un tableau homogène de pensée. C'est-à-dire que ça n'est pas de, comment dire, d'enfanter des types idéaux un par un, mais de les construire les uns par rapport aux autres et, comment dire, symétriquement, en consonance et en dissonance. Bon. Et, comment dire, c'est là, j'appuie. Ouais, bien. Donc, imaginez hein, que, voilà, hein, là, on a l'amorce d'un tableau de ce qui a la prétention d'être un tableau homogène de pensée. C'est-à-dire qu'il s'agit là de poser comme principe que ce fameux principe régulateur est à l'articulation de deux axes d'interprétation. Un axe d'interprétation qui vient de Tony Max Weber, hein, bien, et un axe d'interprétation donc qui vient de gens comme Onef, comme Ricoeur, comme Vievorka, etc., etc. Donc le premier, celui que, bon, de façon arbitraire, est placé verticalement, mais on pourrait le placer dans l'autre sens. Hein. Bon, ça vient de l'idée qu'il y a deux types de fondations du lien social. Sauf que Tony opposait deux types de sociétés, la société et la communauté, et il voyait ça facilement pour une transmission. La communauté était là, étant le groupe traditionnel, la société, le groupe moderne. Alors, société, il faut le prendre société par action. Société des nations. Voilà. Alors, par contre, Max Weber en fait une dialogie, si vous voulez, dans un processus où, selon les moments, selon les personnes, selon les objets, l'acteur se balade sur ce continuum et que on n'est jamais parfaitement dans une posture de société ou une posture de communauté. Alors ça peut arriver, mais ça s'appelle des dogmatiques et ça devient finalement souvent des poseurs de bombes, intellectuels ou physiques. Bien. Donc, si vous voulez, le processus de sociation, c'est l'idée que les individus vont se comporter comme acteurs rationnels et vont finalement créer une interaction sociale en passant des contrats les uns avec les autres. Vous prenez une salle de spéculation boursière et vous y êtes. Hein. Bon, sauf que quand il y en a un qui respecte pas la règle, boum, tout s'écroule. Hein, bien. Par contre, si vous voulez, le processus de communalisation, ce sont donc des gens qui se sentent à la fois pris dans un héritage, largement, et d'ailleurs transmetteurs de cet héritage, c'est-à-dire qu'ils se sentent avant tout, leur essence, la production d'un processus à la fois génétique, pour certains, on est de sang allemand, et d'un processus, je dirais, d'héritage éducatif. Donc là, en haut, vous avez des acteurs avec des stratégies. En bas, vous avez des agents qui sont pris dans un système de contraintes et qui participent à ce système de contraintes. L'autre versus, si vous voulez, c'est que de plus en plus, il y a de forts débats dans les instances sociopolitiques. Est-ce qu'il faut considérer l'espace public d'une façon universaliste, c'est-à-dire composé de gens à traiter également? Hein, c'est bien le système français que Schnapper appelle l'universel républicain, où normalement dans la société politique française, il y a des individus libres et égaux en droit et en devoir. Par contre, hein, vous savez qu'il y a de plus en plus, mais pas forcément par opposition totale, hein, rappelez-vous, ce sont des dialogies, l'émergence de revendications de gens qui disent « à la limite, on veut bien participer par là », hein, du côté universaliste de temps en temps, mais on veut se voir, oui, merci. On veut se voir, reconnaître un droit à la différence et notamment être traité de façon différente. Voilà. Bon. Alors, à partir de là, pour aider à la, à l'élaboration. J'ai appris, on l'a fait de façon empiriquement au départ avec Jean-François Thémine pour l'innovation et puis pour la conception que les professeurs se faisaient de l'espace géographique. Mais je me suis aperçu que Max Weber faisait pas autrement. Bon, ça rassure. Bien. Et donc, ça a été d'essayer de trouver des textes qu'on vous distribuera à la fin, mais il vaut mieux que vous les ayez pas, ça sert à rien, ça demanderait trop de temps. Des textes qui aident à formuler, c'est-à-dire des postures qui combinent, si vous voulez, par exemple, à la fois association et universalisme. Des postures qui combinent communalisation et universalisme, etc. Mais c'est pas par hasard que j'ai mis les textes pas tout à fait en extrême. Parce que si on les met en extrême, ça ne peut pas articuler. Donc, même, si vous voulez, le projet de Renan, est plutôt dans le sens, société universelle, mais il fait une part, à la communalisation, etc., etc. Hein, bon, Fichte aussi, Parce que Fichte, par exemple, parle de peuple, de racine, mais il parle de nation. S'il fait la différence, c'est pas par hasard. Bon. Alors, généralement, il faut prendre ces textes soit dans des utopies. Renan, c'est une utopie 1848 où il prévoit un avenir radieux. Fichte, c'est l'inverse, c'est un passé mythifié. En fait, c'est une utopique. Donc, il, fantasme sur un passé germain pour créer son modèle de nation allemande. Bon. Ici, je me suis amusé, d'ailleurs, parce que j'ai pris, un prospectus d'agence touristique d'Istanbul. Parce que plutôt que de prendre le système des milliers, en fait, des communautés reconnues par l'Empire turc, scientifique, autant prendre la caricature qu'en avait fait déjà une agence de voyage très intelligente qui voulait simplifier ça pour ses touristes. Et puis, pour arriver donc à l'autre bout, c'est-à-dire l'exemple du Canada, j'ai carrément pris la loi fondamentale canadienne qui fonde l'identité canadienne uniquement sur la reconnaissance mutuelle des différences. C'est à mon avis, c'est le Canada qui a poussé à la fois l'idée de contrat et l'idée de droit à la différence au maximum, puisqu'ils fondent théoriquement dans la pratique, c'est autre chose. Alors, et là, il faut revenir à Schneiper. Ces types idéaux ne sont pas là pour dire la réalité du Canada, la réalité. Non, ça sert à penser, de en mettre un peu d'ordre dans la réalité. Et évidemment, la réalité n'est jamais conforme au modèle. Bien. Donc, on continue. Voilà. Bien. Et donc, à partir de ça, donc, vous apercevez que c'est très simple après. Chaque texte de référence, encore décontextualisé, pardon aux historiens, encore caricaturé, repardon aux historiens, devient un type idéal qui s'appelle société universelle. Bon, et puis l'État ethno-nationaliste, etc. Bien. Alors, en gros, je crois que c'est là que est la règle du jeu. C'est-à-dire que, j'ai fait une bêtise, donc je vais remonter. Voilà. Donc, la règle du jeu, c'est que, évidemment, ces types idéaux ne sont pas des catégories dans lesquelles ranger, par exemple, des sociétés. Aucune société, et même parfois aucune utopie, ne est absolument conforme au type idéal. Mais les types idéaux servent à analyser en dialogie et même en quadrilogie là, des sociétés politiques ou d'ailleurs des postures d'enseignants ou d'élèves. Parce que là aussi, on n'est plus à des élèves qui acceptent automatiquement le référent professoral, notamment quand c'est des valeurs. Quand c'est la table de multiplication à la rigueur, mais quand c'est des valeurs, c'est une autre histoire. Bon. Et donc, en fait, c'est ça. C'est que ces types idéaux servent après à analyser. Alors, type idéal construit par Nicole pour le rôle de l'histoire, etc. Là, c'est sur la conception du vivre ensemble légitime. Bon. Alors, maintenant, je vais redescendre. Voilà. Bon. Donc là, c'est vraiment le minimal compréhensible du type idéal de société universelle. Donc vous voyez où on croise l'universalisme à l'intérieur d'une société et la société acteur rationnel qui contractualise. Bon, mais il n'est pas poussé jusqu'au bout. Alors d'abord, si vous voulez, ces types idéaux ont intérêt à être décontextualisés. Évidemment, là, Renan est dans l'idée du scientisme, la science qui va tout obtenir, donc je vous l'ai laissé. Mais les progrès de la science qui vont permettre cette société idéale, actuellement, il vaut mieux le barrer, parce que ça connote le type idéal 19e siècle, il faut au contraire, le contextualiser aujourd'hui. Bon. Et ensuite, on s'aperçoit que, évidemment, Renan, sans utiliser les termes, considère qu'il y a un espace public où il y a des acteurs qui discutent entre eux de façon efficace, rationnelle, etc., mais qu'il imagine, parce que c'est un libéral et un démocrate, un espace privé, ou qui serait, alors notamment, qui pourrait être le, comment dire, le violon d'Ingres, la niche de chaque individu, ou son espace, je dirais, familial ou de conjoint, ou qui serait, en fait, pas du tout du côté de l'association, mais qui se approcherait de la communalisation. Bon, ensuite, hein, comme je suis géographe et qu'on ne peut pas me le retirer, j'ai essayé, en m'aidant de Lévy et de Retaillé, je maintiens, les deux existent et ils ont travaillé ensemble, la dimension spatiale d'une société dite universelle. Alors là, c'est pas, j'ai peut-être plus, j'étais, je crois que j'ai. Oui, quelle heure est-il ? Pardon ? Oui, donc c'est terminé. Disons que dans les modèles que je vous, que les idéotypes que je vous donnerai, commencez par le type idéal B, c'est celui du clash des aires de civilisation de Tonnies, hein, de Huntington, excusez-moi, je suis fatigué, hein, vraiment, hein, vous prenez la carte de la traduction française d'Huntington et vous avez ce modèle-là, net, précis, pas à l'échelle d'un État, mais à l'échelle d'une aire de civilisation. Voilà. Conclusion, ben maintenant, il faut multiplier les études de cas pour voir si ce genre d'approche par type idéaux donne du sens à la cohérence des acteurs. Parce que, si vous voulez, ce système-là, c'est pas trouver des variables qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui fait sens pour l'acteur et qui détermine sa trajectoire d'action, généralement, puisque un professeur ou un élève agissent. Voilà, je crois que c'est tout.